Et bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle conférence et en ces temps de pandémie et de couvre-feu qui sera enregistrée à distance. Et donc, c'est parfait pour l'enregistrement des podcasts aussi Edeni. Je m'appelle Hélène de Vestel, je suis la fondatrice donc, du collectif Edeni qui crée des programmes pédagogiques autour de la transition écologique. Et nous animons une fois par mois eh bien, des conférences autour de sujets d'intérêt général, que ce soit l'écoféminisme, la sorcellerie, la monnaie libre ou ce soir la transition écologique et si possible transition professionnelle de sens. Donc la transition professionnelle va s'incarner ce soir autour de nos deux invités, Benoît et Margot. Donc dont je vais vous rappeler les parcours tout de suite. Mais avant ça, je voulais rappeler un peu le contexte dans lequel s'organise cette conférence, puisqu'on sait qu'à l'heure actuelle, c'est un employé sur cinq qui est activement désengagé en France. Donc un employé sur cinq, c'est quand même énorme. On en connaît forcément autour de nous des personnes qui potentiellement auront à subir ou ont déjà subi un burn-out, qui demanderont potentiellement une rupture conventionnelle puisque leur nombre explose. Et donc, il est important d'analyser ces besoins de transition professionnelle. Alors, pourquoi ces transitions professionnelles? Parce que le monde change, évidemment, donc il y en a toujours eu. Mais aujourd'hui, plus que jamais, se pose la question de l'aliénation du travail et la nécessité pragmatique de gagner un salaire ne nous convient plus, surtout dans les règles du jeu économique actuel où finalement, même après un bac plus 8, plein d'expérience, etc., on peut se retrouver sans emploi ou en tout cas sans emploi qui nous convienne. Du coup, comment rester sincère dans sa démarche de sens quand tous les indicateurs économiques nous condamnent presque à un impact négatif de la création de valeur dans tous les cas, puisque, on le sait, le découplage entre l'activité économique et son impact écologique est un leurre, n'existe pas. Forcément, par la création économique, on va créer de la pollution, exploiter des ressources, même dans une société de services. Alors du coup, pour en parler ce soir, j'ai l'immense honneur d'accueillir les témoignages de deux alumnis de nos formations classe virtuelle ou ESE, donc c'est certification en approche ESE. C'est une formation qui parle d'écologie, qui parle de santé et qui parle d'éthique et qui parle surtout de comment pouvoir justement donner du sens à sa transition professionnelle de manière rigoureuse, pragmatique, mais aussi avec un impact majeur. On va voir avec eux les écueils à éviter, les secteurs qui sont vraiment d'avenir. Est-ce qu'il faut mieux rejoindre un collectif ou au contraire s'épanouir individuellement? Toutes ces questions-là, on va les aborder avec Margot Kaiser. Donc Margot, depuis son stage de troisième, elle chemine en quête d'un travail avec un sens qui l'aide à se lever le matin. Donc elle nous montre la voie, Margot, depuis déjà très longtemps. Elle a travaillé aux Inrocks, à l'Express, à Choka, la communication publique, Emmaüs, les grands voisins, le syndicat des cabarets. Elle a été ensuite dans un collectif de musiciens de jazz. Et à chaque expérience, ça a été pour elle l'occasion d'acquérir une nouvelle compétence transversale. Et tout au long du chemin, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs qui lui ont permis de se connaître encore mieux, de cibler ses forces, d'aller droit au but professionnellement, de prendre des virages qui la rapprochent de sa destination, métier avec du sens. C'est un peu pour ça que vous êtes là, aujourd'hui avec nous aussi. Donc, peu importe, quelque part, si c'était des stages, du bénévolat, des entretiens, des projets entrepreneuriaux, ou au contraire au sein d'un collectif, tout ça a été partie intégrante de son parcours jusqu'à la formation ESE d'Edeni qui a achevé sa maturation et déclenché l'eureka de la volonté, de la nécessité, du besoin de travailler dans la transition écologique. Et aujourd'hui, avec son ikigai en paix, et on reviendra sur cette notion avec Margot, elle est chargée de projets, recherche et développement chez Label Vie, qui est une association d'accompagnement à la transition écologique pour les lieux de vie. Tout un programme évidemment passionnant et je suis ravie de t'accueillir Margot pour en parler ce soir. Bonsoir Margot.
Bonsoir, merci à toi Hélène.
Et alors, je vais vous présenter maintenant notre deuxième invité, Benoît Roland-Dralvel. Alors, Benoît, après plus de 9 ans d'études et de nombreuses expériences professionnelles différentes, parce qu'il a quand même été assistant parlementaire, fonction d'État public, compliance officer, avocat, juriste, en 2018, il a décidé de trouver les moyens concrets de participer professionnellement à l'accélération de la transition écologique et solidaire. Et près de 2 ans après cette prise de conscience, un diplôme de coaching en poche, une expérience de juriste référent fresque du climat pour la filière juridique du groupe EDF, et maintenant récemment un bootcut en poche et même une certification en approche ESE donc chez Edeni, Benoît a construit sa légitimité et les moyens pour se lancer à son compte en bientôt fin d'année et passer à une nouvelle étape concrète de sa transition. Bonsoir Benoît. Alors Benoît, il faudrait que tu parles bien fort pour qu'on t'entende bien par rapport à nous quand tu prends le micro. Alors ma première question pour vous deux, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a un métier parfait auquel vous étiez destiné? Est-ce que vous l'avez atteint? Est-ce que c'est un mythe? Qu'est-ce que vous pensez de cette quête de sens d'un job, métier ou poste parfait? Benoît d'abord.
Alors, c'est vrai que je me suis beaucoup posé cette question-là, et on va dire que la réponse que j'ai aujourd'hui, ce n'est peut-être pas une réponse définitive, mais en fait, je ne pense pas que. Enfin, ma conviction profonde, c'est qu'il n'y a pas un poste qui m'attend quelque part. Par contre, je pense qu'à un instant T, on peut vraiment être à sa place ou pas. Et moi, comment je le formalise, c'est pour moi, on est à sa place quand, entre guillemets, son monde intérieur rentre en résonance avec le monde extérieur. Donc, c'est vraiment cette idée, le monde extérieur, c'est les besoins du monde. On peut partir des 17 objectifs du développement durable, par exemple. Et le monde intérieur, c'est son histoire personnelle, c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est parfois ce qui nous met en colère, c'est-à-dire on est peut-être plus sensible à certaines injustices que d'autres. Donc voilà, c'est vraiment la rencontre de ce monde intérieur et de ce monde extérieur qui va faire qu'on se sent à sa place ou pas.
Super, merci Benoît. Margot?
Oui, je rejoins complètement la formulation d'être à sa place à un instant T, parce que pour ma part, mon parcours a été justement d'expériences très différentes qui, certes, m'ont amené à quelque part et qui me rapprochent d'un métier qui me convient de plus en plus. Mais en fait, chaque expérience elle-même a aussi été très intéressante et j'ai jamais vécu quelque chose juste pour que ça me permette d'aller plus loin. Ça a été en soi des expériences très enrichissantes et sur le métier parfait, je me pose encore un peu la question. J'avoue que j'y crois encore au métier parfait, mais effectivement, là où ce qui est vrai, c'est qu'il y a un équilibre à trouver entre le sens qu'on y trouve et aussi les conditions matériel en fait pratique de ce métier qu'on peut avoir tendance à oublier ou quand on se dit voilà moi à un moment je voulais être journaliste et puis en fait ça demandait d'énormément voyager et d'écrire énormément alors ce qui en fait n'était pas forcément voilà il y a des choses où dans l'idée un métier nous paraît vraiment avoir énormément de sens être en accord avec nos valeurs mais dans le quotidien nous correspond un peu moins donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver à tous les niveaux. Mais peut-être qu'effectivement, le métier parfait n'existe pas.
Ok. Et justement, tu parlais d'équilibre. Et puis, pareil, ça rebondissait sur ce que disait Benoît, entre l'équilibre entre les besoins extérieurs et ce dont on a besoin en intérieur. Nous, on utilise beaucoup dans nos formations et Edeni l'outil de l'ikigai, qui est donc un concept qui nous vient du Japon et qui est une méthodologie qui permet de s'interroger sur ce qu'on aime faire, mais aussi quelles sont nos compétences, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on pourrait être payé. C'est-à-dire qu'est-ce qui crée un échange de valeur suivant les règles du jeu économique actuel ou en prenant un petit peu d'avance, suivant les règles du jeu économique qu'on pourrait souhaiter aussi, parce qu'on a le droit d'essayer de créer un marché ou d'essayer de changer les règles du jeu. Vous, quel a été votre cheminement, votre réflexion justement pour s'interroger sur quels besoins je vais pouvoir travailler? Parce qu'il y en a tellement, enfin, entre lutter contre les injustices, rejoindre une association pour venir en aide à des migrants ou lutter contre l'illettrisme ou lutter contre l'abandon des seniors, ou enfin, il y a la nutrition, le maraîchage, l'agriculture, la reliance, la résistance, il y a tellement d'actions possibles. Quel a été votre cheminement et les outils utilisés pour essayer de faire un peu le tri dans toutes ces opportunités autour de vous, Benoît?
Alors là-dessus, on va dire que moi, ça s'est un petit peu réalisé par étapes. La première étape, ça a été, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai dans mon projet, c'est d'avoir deux piliers, un pilier de coaching en transition professionnelle et un pilier d'accélérateur de la transition écologique des organisations. Et en fait, ce deuxième pilier, il est arrivé assez tardivement, j'ai envie de dire il y a à peu près un an. Le premier, il a vraiment émergé il y a 2 ans. Et ce pilier-là, comment il a émergé? Ben, il y a eu deux, trois déclics. Un documentaire en quête de sens qui m'a rappelé à quel point c'était important pour moi de contribuer à ce que la société aille dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle soit plus juste et plus durable. Un deuxième déclic, c'est un livre. Ça s'appelait Réinventer sa vie professionnelle, trois petits points quand on vient de la commencer. Et le troisième, c'est du coaching avec cette personne-là, l'auteur du livre. En fait, ça m'a permis de voir très clairement qu'aujourd'hui, en fait, j'avais déjà une dizaine d'expériences professionnelles à peu près. Tu parlais d'une personne sur cinq désengagée. Moi, j'aurais même tendance à dire plus. Ça dépend ce qu'on met derrière le terme désengagé. Moi, ce que je mets derrière le terme désengagé, c'est des personnes qui me diraient, si j'avais le choix, je ne serais pas là où je suis. En gros, je vis pour les vacances, les jours fériés, et ainsi de suite. Et pour moi, j'ai eu beau faire de la fonction publique, assistant parlementaire, des entreprises privées. J'étais beaucoup plus sur 7 personnes sur 10. J'ai vu assez peu de personnes qui étaient vraiment, qui se levaient sans problème le matin et qui avaient l'impression d'avoir pas des bullshit jobs, mais vraiment des jobs qui ont du sens. Et donc finalement, comme moi-même, j'avais passé beaucoup de temps à chercher ma place et que j'avais vu beaucoup de personnes qui n'étaient pas à leur place, je me suis dit que contribuer à ça, ça me faisait vraiment vibrer. Aussi par rapport à mon histoire personnelle, c'est-à-dire qu'au final, les métiers d'accompagnement, si on regarde mon histoire personnelle, c'est assez logique que je m'y retrouve. J'ai notamment fait 10 ans de psychothérapie, donc j'ai une assez bonne connaissance de moi. Et c'est vraiment quelque chose finalement qui fait partie de mon histoire. Et donc voilà, quand je disais rentrer en résonance avec le monde extérieur, c'est-à-dire ce besoin-là, le monde extérieur, rentre vraiment en résonance avec mon histoire personnelle. Quand j'exerce ça, je n'ai pas l'impression d'être le juriste numéro A, entre un numéro 1, mais vraiment d'être Benoît qui exerce ce métier-là, entre guillemets. Et donc le deuxième, c'est un peu, pour le coup, on pourrait revenir plus tard, mais c'est un peu un concours de circonstances qui a un peu commencé avec ton intervention, Hélène, sur justement l'idée que on avait tellement besoin d'accélérer cette transition, mais qu'on avait assez peu finalement de formation qui le permettait et de personnes qui étaient engagées là-dessus. Donc voilà, ça a planté une graine qui a germé par la suite.
Super, merci beaucoup Benoît. Margot?
Pour ma part, ce cheminement vers un peu justement quel est un peu la cause ou quel est le sujet dans lequel je vais pouvoir m'épanouir, ça a vraiment fonctionné en tirant des fils en fait. C'est-à-dire, pour le coup, j'ai toujours eu à cœur l'écologie comme conviction personnelle en mode de vie, mais c'est que l'année dernière que je me suis rendu compte mais en fait, c'était là-dedans que je voulais travailler. Et en fait, ce que ma méthode entre guillemets, ça a été de tirer à chaque fois un fil de quelque chose qui m'intéressait et qui m'intriguait où je me voyais peut-être éventuellement. Donc je faisais un peu une hypothèse, voilà, le journalisme ou alors ensuite ça a été la communication enfin d'abord le journalisme à impact de solutions où du coup je me suis dit bon bah je vais rencontrer des gens, j'ai contacté des gens sur Internet, j'ai fait des stages, je me suis rendu compte que ça me convenait pas, qu'en fait je voulais être dans un projet à impact social. Du coup je me suis dit bon bah je vais faire la communication, comme j'étais plutôt à profil littéraire, je vais faire un master en communication et je vais travailler pour ces projets impact sociétal. Et donc j'ai été chez Emmaüs, et même chez Emmaüs Défi, je me suis dit mais en fait j'ai envie d'être dans le projet Emmaüs Défi, j'ai pas envie juste d'en parler. Et donc c'est à chaque fois comme ça, une expérience m'a appris des choses sur moi-même, sur mes appétences personnelles, mes compétences aussi. Et je me suis rendu compte que j'avais peut-être aussi des compétences en gestion de projet, mais plus qu'en communication. Et donc, je suis allée travailler au Grand Voisin, où là, j'étais, ça y est, dans le cœur d'un projet à impact sociétal et où je me sentais complètement à ma place. Sauf que pile à ce moment-là, j'ai eu envie de tirer, et il y a eu des opportunités qui m'ont mis face à la musique et qui m'ont demandé de tirer le fil de la musique, ce que j'ai fait. Et là, pour le coup, J'ai adapté la même méthode, c'est-à-dire que j'y suis allée à fond et donc j'ai commencé à jouer, à faire des concerts, je me suis proposée pour des concerts, ce qui a fait qu'en fait j'ai gagné ma vie pendant 3 ans comme ça. Mais j'avais toujours en tête quand même, de manière générale, le fait de travailler dans un projet qui soit une alternative, qui soit dans le fait de montrer une alternative à un impact sociétal. Et c'est qu'au bout de 3 ans dans la musique, où j'ai pu voilà, tirer ce fil de la musique, mais aussi tirer le fil de l'entrepreneuriat, qui m'avait toujours un peu titillée, et comme j'ai monté mon collectif de musiciens de jazz, le fait de gérer une petite équipe, le fait de monter le site internet, le fait de, etc., ça m'a donné énormément de connaissances sur moi, qu'en fait, j'aimais gérer une équipe, j'aimais avoir un projet entrepreneurial. Et c'est qu'au bout d'un moment que je me suis dit, bon, en fait, quand même, la musique, oui, c'était quelque chose que je voulais tirer comme fil. Et d'ailleurs, maintenant, la personne qui partage ma vie est un musicien, donc j'ai bien fait de tirer ce fil. Mais ça n'a pas donné quelque chose de professionnel. Finalement, la façon dont je suis arrivée à l'écologie, ça a été en faisant tout ce cheminement et finalement en rencontrant la formation Edeni, où je me suis dit, bon, là, c'est le sujet. Qui me parle spécifiquement la transition écologique, les alternatives dans la transition écologique. Donc ça a été un peu comme ça que ça s'est passé mon cheminement.
Super, merci Margot. Avant de revenir sur ce que vous a apporté cette formation, à vous écouter, je m'aperçois que vous avez tous les deux une relation au travail qui peut se lire sur deux niveaux. Il y a le niveau très terre à terre qui est le fait que vous avez toujours été en activité. Donc, travailler et penser la transition non pas comme une coupure, mais bien comme ce qui est le véritable terme transition, c'est-à-dire comme un passage d'étape à une autre, mais sans s'arrêter et se dire oh, j'en peux plus, vous n'avez pas atteint un burn-out en vous disant voilà, là vraiment je claque tout et je vais me réinventer dans le Larzac avec des chèvres. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça donne de l'espoir à beaucoup de personnes qui, de manière très financière, ne pourraient pas, dans tous les cas, s'arrêter et se dire, oh, bah, je me donne 2 ans pour découvrir qui je suis, où je veux être. Et bah, dans la lutte aussi éthique et sociale que mène Edeni, pour nous, c'est très, très important de pouvoir aussi prendre ça en compte et montrer l'exemple que, en fait, une transition, elle peut très bien se faire tout en ayant encore un métier alimentaire et en trouvant des manières de subvenir à ses besoins. Et d'une manière un peu plus métaphysique, votre relation au travail, comme ça, par étapes, me fait penser que c'est peut-être une manière différente de voir le travail aussi, comme ok, on passe un certain nombre d'heures par semaine à avoir une activité, donc ça vaut le coup de se poser la question de quelle est cette activité. Évidemment, c'est pas simple pour tout le monde et nous sommes des privilégiés de pouvoir se poser cette question-là. Néanmoins, quand on en a les moyens, il serait très néfaste et de pas se donner les moyens justement de se poser cette question. Est-ce que l'impact que je vais avoir pendant ces 40 heures par semaine va être négatif, est-ce qu'il va être neutre ou est-ce qu'il va être positif? Et d'aller comme ça d'un poste à un autre sans forcément avoir le job de ses rêves, est-ce qu'il existe? On ne sait pas en plus. Mais en tout cas, de pouvoir passer d'un à un autre sans trop être terrifié et sans trop avoir peur. Aujourd'hui, j'étais au téléphone avec une personne qui peut-être nous écoute et se reconnaîtra, qui travaille dans un grand groupe, qui est depuis le Covid, là, en très grande difficulté financière et qui licencie à tour de bras. Elle a très peur d'être licenciée et de l'autre côté, elle vient de s'inscrire avec Edeni et elle se dit, bah, en fait, grâce à cet apprentissage peut-être de l'effondrement, des enjeux écologiques, mais aussi éthiques, de l'injustice et des personnes qui ont déjà vécu ces effondrements et qui les vivent tous les jours, comme les migrants par exemple, en fait, ça me donne du courage de me dire, bon, bah, je ne suis pas plus bête qu'un autre ou qu'une autre, j'ai 10 doigts et avec ça, je vais pouvoir créer quelque chose. Et ce n'est pas grave, en fait, si la société m'a vendu que ce n'était pas très reconnaissant de vendre des fleurs sur un marché ou d'aller cueillir des patates ou n'importe quoi. Et je vais le faire et j'en ai pas peur. Qu'est-ce que ça vous évoque par rapport justement à cette relation au travail aliénant ou au contraire épanouissant? Qu'est-ce que c'est pour vous le travail?
Vas-y, Benoît, si tu
En
veux.
2 minutes.
Okay, en deux. C'est vrai que c'est un vaste sujet. Moi, ce qui me vient comme ça, c'est effectivement c'est une question. En fait, moi, j'ai rédigé un mémoire dans le cadre de ma formation de coaching qui était la quête de sens et d'alignement d'une partie de la génération Y dans sa vie professionnelle. Et justement,
Super.
ce qu'on voit, enfin, ce que j'ai appris en rédigeant ce mémoire, c'est que quand on parle de la génération Y, la génération Y, en fait, est traversée par des aspirations qui sont différentes et en fait qui dépendent en grande partie des conditions économiques, sociales dans lesquelles ils sont insérés. Mais qu'entre guillemets, donc en fait, dans le cas de. Là, j'ai découvert notamment dans le cadre de certaines études qu'on pouvait catégoriser entre guillemets en quatre catégories. Bien sûr, elles ne sont pas figées, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une catégorie à l'autre selon les moments de sa vie. Et justement, entre guillemets, il n'y avait qu'une seule de ces quatre catégories pour laquelle le travail était vraiment une source d'épanouissement, pouvait être une source d'épanouissement, qui mettait la question des valeurs importantes au cœur du travail. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, moi, j'ai concentré mon mémoire là-dessus, puisque moi, c'était la question du sens qui m'avait amené, c'était vraiment ça qui m'avait amené au coaching et finalement à la question de la transition professionnelle. Et ce que je peux dire là-dessus, c'est que, alors, en la matière, moi, je l'ai bien vu dans le monde des avocats, il y a vraiment deux croyances qui se font face. Il y a la croyance selon laquelle le travail est une source de souffrance, et on parle de souffrancocratie, c'est-à-dire qu'en fait, si je ne souffre pas, c'est que je ne travaille pas et donc je ne mérite pas. Et face à cette souffrance que je considère comme vraiment dominante dans le milieu des avocats, par exemple, mais c'est la même chose dans d'autres milieux en France, il y a une autre croyance qui est, voilà, on peut dire beaucoup plus en rapport avec cette phrase de Confucius, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras plus à travailler un seul jour de ta vie. C'est vraiment deux croyances qui, du coup, vont conditionner ce qu'on va rechercher. Et moi, c'est vrai que depuis le début, j'étais complètement sur la croyance plutôt, on va dire, de Confucius. Et donc, c'était ma boussole. Et donc, je ne voulais pas me résoudre à penser qu'en fait, ce n'était pas possible. Et on va dire, malgré un peu les prophéties que certaines personnes m'ont faites sur mon passage, en mode, mais tu trouveras jamais, ça n'existe pas, c'est pas possible d'avoir un job épanouissant. Tu trouveras juste un job confortable et c'est tout. Malgré ça, j'ai persévéré. Et là, voilà, ça fait 2 ans, je sais où je vais, je suis bien orienté. L'ensemble du champ des possibles devant moi me plaît, donc voilà, je me sens vraiment à ma place et donc j'ai eu raison de persévérer.
Est-ce qu'on finit pas par vouloir ce dont le monde a besoin? Moi, je suis persuadée que si tu te dis, même si tu détestes le travail manuel, mais tu te dis, en fait, on a besoin de menuisier, tu vas finir par vouloir être menuisier par effet empathique et parce que bah, on a besoin de participer aussi à l'amélioration du monde, quoi.
Alors moi, effectivement, c'est ma conviction, c'est-à-dire que quand on est quand même des animaux sociaux, on est câblé. Enfin, quand on regarde comment on est fait, on n'a pas des griffes, on n'a pas tout ça. Et en fait, notre gros avantage par rapport à d'autres animaux, c'est qu'on est capable de coopérer et donc quelque part être complètement indifférent à ce qui nous entoure. Moi, j'y crois pas. En tout cas, je
Ouais,
pense
moi
pas
non
qu'on
plus.
puisse être durablement heureux en étant indifférent à ce qui nous entoure. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, dans mes coachings, le principe du coaching par rapport au conseil, c'est pas moi qui ai les solutions. Je vais permettre à la personne de lui offrir un espace, de se libérer d'un certain nombre d'influences, en tout cas d'en prendre conscience, qui est la première étape pour s'en libérer. Et l'idée, c'est précisément, c'est pas moi qui vais lui dire, je sais que ça et ça et ça, c'est bon pour toi. Et même, en fait, je sais que moi, comme ce qui m'intéresse, c'est la transition écologique, va dans la transition écologique. C'est pas du tout ça. Et ma conviction profonde, c'est quand la personne a cet espace-là, d'elle-même, en fait, elle va pas se dire, je vais faire tel job
Si
parce que
elle est
c'est
bien
pas.
accompagnée.
Voilà. Mais c'est pour ça que c'est
Ouais.
vraiment.
Ouais.
Mais que voilà, mais c'est vraiment une conviction profonde, c'est effectivement comme tu dis, je ne pense pas qu'on puisse vivre durablement en étant indifférent à ce qui nous entoure. C'est-à-dire nos neurones miroirs, tout ça, enfin, on est câblé pour ressentir l'empathie et ainsi de suite.
Exact. Merci Benoît, Margot.
Ben, je dirais que sur la question du rapport au travail, je suis une angoissée de nature. Et en général, quand je suis angoissée et comme je suis assez, très angoissée par ce qui se passe dans le monde et par ma ville, la pollution, la pauvreté, etc., en général, je réponds à l'angoisse par l'action. Et du coup, quand j'ai toujours, je pense, considéré le travail qui prend 80% de mon temps comme bah, là où ça allait se passer l'action, en fait, j'ai jamais trop pensé le travail autrement que comme un espace où j'allais pouvoir participer et effectivement, comme dit Benoît, collaborer et être ensemble, faire société en fait pour voilà, on se retrousse les manches et voir ce qu'il y a à faire en fait parce que j'ai besoin d'agir pour vraiment, pour pas reprendre une tagline qu'on entend beaucoup, mais pour construire ce monde meilleur, quoi, que j'ai vraiment, vraiment envie de voir. J'ai besoin de voir que sinon, si je faisais rien, ou alors si je faisais des choses qu'en dehors de mon temps de travail et que mon temps de travail allait contre ces ambitions et ces ambitions pour notre société, je dormirais pas sur mes deux oreilles. Mais c'est je dirais que c'est moins par comment dire, vertu ou éthique, que vraiment pas tout simplement par pragmatisme, quoi, que si je veux voir quelque chose qui se passe autour de moi et moi-même vivre, et mes enfants plus tard vivre dans un monde qui me parle et qui me convient et où je suis bien, faut que j'y participe. Donc c'est vrai que j'ai toujours considéré le travail comme ça. Et aussi j'ai jamais, et je pense que ça c'est aussi un, enfin ça à prendre en compte, que j'ai jamais considéré le fait de travailler, comme je disais tout à l'heure, dans quelque chose qui allait me servir pour plus tard ou qui allait uniquement me servir à de l'argent. Vraiment, c'est très matériel pour moi, le travail. C'est les gens avec qui je travaille, c'est où je travaille, c'est très physique, quoi. Donc,
c'est très intéressant. Hein.
Ouais, donc,
et ça reboucle sur justement le fait de la nécessité d'être bien informé, bien formé, bien accompagné, parce que comme tu le disais et dans vos deux discours transparaissait justement cette notion d'empathie et de faire quelque chose d'utile, de pas avoir une vision politique de est-ce que ça va me servir comme tremplin de faire ce boulot même si ça n'a pas de sens, etc., mais de vivre le moment pour ce qu'il est et pour son utilité. Encore faut-il savoir où se trouve l'utilité. Ça me fait penser à effectivement quand on est dans un week-end avec des amis ou dans un rassemblement militant, bah, y a besoin de quelqu'un qui va nettoyer la table, quelqu'un qui va aller éplucher les patates, quelqu'un qui va faire nettoyer les toilettes sèches, etc. Et on le fait tous, non pas par conviction, par ikigai, ouah, c'est ma raison d'être, moi je suis fait pour nettoyer les toilettes sèches, mais parce qu'il y en a besoin et que oui, on peut trouver son épanouissement là. D'où le fait de comprendre quelle est l'utilité et là où on va pouvoir avoir une valeur ajoutée, parce que bah, on est suffisamment grand, donc on peut aller cueillir les pommes tout en haut, donc ça va être nous le préposé et on va apporter au collectif via ça, ou on a d'autres savoirs qui peuvent être mis en œuvre. Et donc cette nécessité d'être bien formé sur quels sont les secteurs d'avenir, là où il y a du besoin, dans l'isolation, est-ce que tu y as pensé? C'est vrai qu'on est très très mal accompagné dans le champ des possibles. Quand on est au lycée, il y a toujours les voies d'élite où on nous dit il faut faire des maths, il faut faire ceci, il faut faire cela, sans réellement le mettre en relation avec des besoins humains, psychologiques, matériels, voilà, collectifs, etc. Et du coup, dans vos différentes formations et accompagnements, qu'est-ce que vous avez pu, par exemple, apprendre de la formation ESE et éventuellement d'autres aussi? Benoît.
Bah justement, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la formation ESE, c'est ce focus sur les secteurs d'avenir, avec un peu une systématisation de voilà, quels vont être les grands besoins. Je trouve que ça, parce qu'on entend beaucoup, travailler dans la transition écologique, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose, c'est un secteur d'avenir, sauf que souvent on s'en
ça
arrête là
dire.
Et on a du mal à voir ce que recouvre finalement ce secteur-là. Et donc là, je trouvais ça extrêmement intéressant. Donc ça m'a vraiment marqué concernant cette question-là. Donc,
Ok, très bien. Merci Benoît. Margot.
C'est vrai que, alors que pour le coup, j'avais fait 5 ans d'études avant de faire la formation ESE, malheureusement, et pourtant dans un master en communication à Sciences Po, qui est censé quand même être une école de l'ouverture et de la conscience des enjeux sociétaux, il n'y avait pas un copec sur les enjeux écologiques, sur les enjeux même sociétaux en général. C'était très pauvre. Je crois que c'est en train de changer, j'espère. Et du coup, effectivement, ça a été que grâce à des MOOC aussi, des MOOC gratuits, les Social Terre, tous les magazines qui vont vraiment dans le fond de tous ces sujets, qui ont pu énormément m'apprendre, et aussi dans la rencontre. En fait, comme je disais, moi, j'ai beaucoup fonctionné dans l'expérience, donc c'est de la formation aussi. Là, aujourd'hui, le métier que je fais aujourd'hui, ça me permet de me former à tous les sujets d'enjeux écologiques. Mais la formation à ESE a vraiment été pour la première fois qu'on m'a présenté, voilà, comme disait Benoît, les enjeux en général. Et après, je pense que c'est à chacun de creuser, parce qu'on ne peut pas savoir tout sur tout. On ne peut pas savoir, en général, là où il faut agir pour résoudre le climat. C'est paf, c'est là, donc c'est là où je dois aller. Non, déjà, ce serait trop simpliste. Et puis, ça dépend du contexte d'où on est et puis de nos compétences. Donc, je pense que ce qui est très utile dans la formation ESE, c'est cette vision d'ensemble et surtout tout l'aspect ikigai pour se connaître soi-même, connaître à la fois ses compétences, mais aussi ses appétences, comme je disais tout à l'heure, qui sont vraiment importantes et qu'on peut avoir tendance à mettre de côté, surtout si on est en transition et qu'on se dit, bon, bah, là, voilà, il y a besoin de moi à ce moment-là, c'est quelque chose que je sais faire. Oui, mais si c'est quelque chose qui vous stresse avant de le faire, ou si c'est en fait vous êtes l'ikigai, il est intéressant pour ça, et c'est grâce à Edeni que j'ai découvert cet exercice. Parfois, il y a des choses qu'on vous demande souvent de faire, de rendre comme service, alors que c'est pas quelque chose que et vous savez le faire, mais c'est pas forcément quelque chose que vous aimez faire. Donc ça,
Tout à fait.
ça a été un gros apprentissage pour moi aussi de la formation Edeni.
Génial. Merci beaucoup, Margot. Je retiens de nos différents échanges qu'effectivement, on peut entamer sa transition pro en parallèle d'un job payé. Alors effectivement, tout le monde n'a pas autant de temps. Je pense notamment aux parents ou à celles et ceux qui enchaînent plusieurs boulots ou plusieurs activités, qu'elles soient militantes, qu'elles soient se prendre soin de ses proches ou d'autres personnes. Néanmoins, on peut se faire accompagner. Du coup, le deuxième grand point, c'est vraiment de ne pas hésiter à se renseigner, à savoir bien s'entourer, que ce soit des coachs, que ce soit des amis, que ce soit des magazines, comme tu disais, effectivement, Socialterre, voilà, d'avoir un panorama, un peu un aperçu pour sortir de ce qu'on a toujours connu. Et Dieu sait si le déterminisme social est bien aidé par les algorithmes des réseaux sociaux, nous enferme dans des bulles extrêmement restreintes. Donc, d'être capable d'aller voir ailleurs, ne pas avoir peur des étapes, ne pas avoir peur des labels que vont apposer la société sur ah bah ça c'est une bonne carrière, ça c'en est moins, ça ceci, et puis surtout se dire de vos deux exemples, qu'on peut passer par plein d'étapes différentes, plein de boulots différents, sans s'enfermer dans un seul, et que c'est pas parce qu'on passe, voilà, on va passer d'un secteur juridique à un secteur marketing que plus tard on ne pourra pas passer à un autre secteur, ou qu'on ne pourra pas devenir maraîcher, puis musicien, puis dans un autre secteur. Et donc de ne pas hésiter aussi à se former pour comprendre, pour avoir ce temps de recul sur ses compétences et appétences, et en parallèle des besoins et de l'environnement économique pragmatique. Voilà, de ne pas rester uniquement dans la théorie et dans les beaux rêves, mais de se dire, OK, concrètement, dans quoi je vais pouvoir travailler demain, et non pas peut-être ce mot travail, hein, qui vient de Tripalium, qui est un peu difficile, mais de se dire d'apporter du sens, en fait, d'apporter ma part à un collectif, parce que je ne peux pas vivre tout seul. Je suis un animal social, et tout animal social a besoin aussi de trouver sa place et de se sentir bien. Est-ce que ça passera par des revenus universels? Est-ce que ça passera par un renversement total des paradigmes qui nous touchent? On ne sait pas encore. Et du coup, pour donner un petit peu plus d'ouverture à nos auditeurices, je vais vous demander de pouvoir leur donner un conseil de choses à faire, un conseil vraiment positif, un conseil cette fois-ci côté négatif d'écueil à ne pas faire, peut-être un regret que vous avez eu, et troisièmement une ressource. Donc ça peut être une ressource littéraire, une citation, une formation, tout ce que vous voulez, pour clôturer ce court podcast sur la transition professionnelle de sens. Benoît, je te laisse commencer.
Ok. Alors, concernant le conseil, moi, ce que je donnerais, c'est ben, si vous êtes vraiment sur cette croyance-là que, effectivement, le travail, ce n'est pas forcément une source de souffrance, mais ça peut être au contraire quelque chose qui nous permet d'œuvrer à un monde meilleur, donc passer plutôt d'un langage du travail à l'œuvre, on va dire, c'est entourez-vous le plus possible de personnes qui ont la même croyance. Entre guillemets, créez-vous un écosystème qui va vous faciliter la vie. Si vous êtes entouré de personnes qui pensent le contraire, vous allez très vite vous laisser influencer, ou en tout cas, ça va être de plus en plus compliqué de persévérer dans votre voie. Concernant le conseil d'écueil à ne pas suivre, c'est quelque chose que j'ai respecté pour le coup. C'est vraiment gagner ce que vous dépensez et ne dépensez pas ce que vous gagnez. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se compliquent la vie, c'est-à-dire que c'est jamais fini, mais c'est juste qu'ils se la compliquent. Je prends l'exemple des avocats, ils gagnent beaucoup d'argent, parfois ils ne sont pas épanouis, mais comme ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont des gros besoins. Et en fait, ça crée un engrenage, donc ça crée un peu ce qu'on appelle une prison dorée. Et moi, c'est Bernard Friot qui disait un travail aliéné produira toujours des loisirs aliénés. Donc, c'est vraiment cette idée qu'en fait, on se crée sa propre prison, ses propres chaînes. Et donc, moi, j'ai eu beau gagner de plus en plus d'argent, j'ai toujours limité mon train de vie de manière à ce que, parce que j'avais la conviction que je n'étais pas encore à ma place, et de manière à ce que, de me faciliter la tâche au moment de m'évader, entre guillemets, de ma prison dorée. Le troisième, c'est une ressource. Voilà, comme ça, moi, celle qui me vient, ce serait le livre « Activez vos talents » de Mathieu Dardaillon. Voilà, on est complètement sur cette croyance de on passe 80 000 heures dans sa vie à travailler et autant que ça serve à faire en sorte qu'on vive dans un monde dans lequel on a envie de vivre et pas l'inverse.
Super. Merci beaucoup, Benoît. Margot ?
Alors, pour un conseil, je dirais vraiment oser frapper aux portes, que ce soit dès qu'il y a un secteur, un métier, même quelqu'un que vous avez croisé à une soirée qui vous a parlé d'un métier, de quelque chose qu'elle faisait et qui vous a fait tilt, de lui écrire, de vraiment pas avoir peur. Moi, j'ai écrit mais un nombre d'inconnus sur LinkedIn, sur Facebook. Alors, je suis… Bon, peut-être ça se voit pas comme ça, mais je suis assez timide, en tout cas, comme ça. J'ai du mal à parler, par exemple, à la fin des événements, etc. Mais à chaque fois, je me boostais parce que toutes ces rencontres, soit des rencontres ou aussi d'oser se proposer en service de bénévolat quand c'est possible, en service payé même quand c'est possible aussi. Même si vous ne vous sentez pas légitime, même si vous ne savez pas exactement où ça va vous mener, si ça vous fait tilt, en général, les gens sont vraiment bienveillants et les gens veulent parler de leur expérience, sont OK pour recevoir des propositions. Donc voilà, ça, ce serait vraiment mon gros conseil, d'oser et de ne pas, comme tu disais, Hélène, se sentir limité par le regard des autres. Parce que pour être honnête, en général, on croit que les gens vont juger, mais finalement, les gens sont toujours assez admiratifs quand on a osé faire un truc un peu à côté de la plaque ou un peu étrange ou… C'est toujours genre, ah ouais, parce que tout le monde a ce petit rêve au fond de soi qu'on n'ose pas mettre en place. Et je ne suis jamais tombée sur quelqu'un qui m'a dit, ah bon, pourquoi tu es partie dans la musique, c'est trop bizarre, ou pourquoi tu fais du jazz? Jamais. Vraiment, ça n'arrive pas, je pense, sauf des gens expressément malveillants. Donc oser frapper aux portes. À ne pas faire, je dirais, de pas… Même si le doute est ce qui permet de se poser des questions quand vous doutez de votre situation professionnelle, de ne pas laisser traîner trop longtemps ce doute parce que ça peut vous faire du mal au bout d'un moment. Vous pouvez commencer à broyer du noir et puis vous pouvez laisser passer des opportunités. Et surtout aussi, par exemple, dans mon cas, j'ai pu laisser traîner un peu trop quand j'étais dans la musique, alors que j'avais embarqué des gens avec moi, etc. Et j'ai, pour la première fois, douté trop longtemps. Et finalement, ça a impacté d'autres personnes, alors que si je m'étais recentrée sur moi un peu plus tôt, j'aurais évité de perdre du temps et ça m'aurait fait perdre moins d'énergie, je pense. Et puis comme ressource, c'est dur à choisir, mais bon, j'ai parlé de Socialterre mais là, ce que je suis en train de lire en ce moment, c'est la BD de Sapiens, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire Sapiens, c'est un gros livre très intéressant, mais je me suis arrêtée à l'introduction et ils ont sorti une BD qui est ultra bien faite et je trouve qu'il permet de prendre énormément de recul sur notre planète et sur notre société. Donc, je trouve ça très, très utile quand on se pose des questions professionnelles.
Super, merci beaucoup Margot. Du coup, je vais prendre quelques questions. Je vois qu'il y en a une sur, qui parle justement du label à poser à la, sur, que la société nous impose, notamment sur la période du chômage. Alors, c'est vrai qu'on est très privilégié en France avec ses droits au chômage, ses ruptures conventionnelles, ses aides aussi à l'entrepreneuriat et à la mobilité professionnelle. Et vraiment, il est très, très important d'en bénéficier au maximum parce qu'on a ce serait presque un crime de ne pas profiter d'un outil qu'on nous met pour pouvoir ensuite le faire bénéficier à d'autres pans de la société, notamment en ayant un job de sens qui va être utile, qui va aider la progression de l'humanité et potentiellement la lutte contre le réchauffement climatique notamment. Du coup, vraiment, dites-vous, premièrement, alors, du coup, la question, c'est comment vivre au mieux cette phase et se fixer des objectifs cohérents pour ne pas se laisser influencer et avancer sereinement dans la quête de soi. Premièrement, quand vous êtes au chômage, vous êtes les plus bénéfiques pour la transition écologique puisque vous ne créez pas de valeur économique, vous consommez beaucoup moins parce que vous devez faire attention à votre budget et donc potentiellement tout le monde devrait même vous rémunérer pour ne pas travailler, pour ne pas faire d'action économique puisque vous allez moins polluer que tous les autres. Si tant est que vous respectez les règles du jeu et que vous ne vous faites pas un week-end à Bali avec vos droits au chômage. Mais si vous êtes dans cette période d'introspection, de réflexion, de décrocher le téléphone, d'appeler plein de personnes et de se poser ces questions pertinentes, eh bien, vous consommez moins, vous dépensez moins et c'est mieux pour la planète et pour les autres. Donc voilà déjà quelque chose que vous pouvez répondre. Tout le monde devrait être beaucoup plus au chômage. On devrait se partager les emplois, de dire je travaille 2 ans et après je ne fais plus rien pendant 2 ans pour limiter mon action, je retravaille 2 ans. Enfin, je ne sais pas si ce serait vraiment ça la société idéale, mais en tout cas, pour pouvoir s'interroger sur ces questions-là, il y a quelques ressources qu'on utilise chez Edeni et notamment inspirées de l'excellent travail du collectif Floraison. Et je vous conseille particulièrement comme ressource, si vous voulez vraiment avoir un peu plus d'arguments sur la question, de lire « Libérons-nous du travail » du Comité érotique révolutionnaire. Voilà, un petit ouvrage qui coûte pas très cher, que vous pouvez commander dans votre librairie locale. Donc « Libérons-nous du travail ». Bernard Friot aussi a pas mal de points là-dessus. Bénédicte, je suis au chômage, c'est un choix voulu pour quitter mon CDI et pour mieux vivre cette phase, effectivement, le mieux, c'est de se couper des personnes toxiques et de bien s'entourer, de ralentir, de prendre son temps. Effectivement, c'est important de bien s'entourer, encore une fois. Il y a beaucoup, beaucoup d'organismes. Alors, Benoît en citait un avec... alors, c'est pas Make Sense, c'est... comment il s'appelle ? Mais voilà, exactement. Ticket for Change. Ticket for Change. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être parfait tout de suite, de changer radicalement. Vous pouvez y aller encore une fois par étapes. Pas besoin de créer une nouvelle structure juridique, pas besoin d'écrire la lettre parfaite pour demander à un architecte quel est le quotidien de son travail, etc. Osez être simple aussi. Et je pense que, alors je vois qu'on a fait à peu près le tour des questions et en plus, vous vous répondez entre vous, donc c'est vraiment formidable, une super communauté qui s'entraide ce soir. Je vous invite à poursuivre ces échanges après sur nos différents réseaux sociaux et à vous retrouver dans la vraie vie en dehors du couvre-feu. Et quant à moi, eh bien, j'ai été ravie de partager ce nouveau moment privilégié avec vous, d'aborder cette question si essentielle de la transition professionnelle, puisque dans tous les cas, de gré ou de force, on va tous devoir être résilients et s'adapter à un monde en constante évolution, malheureusement pas forcément de manière positive, avec le changement climatique, l'écologie décoloniale, les problèmes de ressources, les injustices, les tensions qui augmentent. L'actualité en est remplie ces jours-ci, mais le principal, c'est qu'on s'interroge sans tabou sur ces questions-là et qu'on ose encore une fois avancer, oser faire les premiers pas. Et donc, je vous rappelle le nom du livre, comme on me demande, Libérons-nous du travail. Et le collectif qui l'a rédigé, c'est le Comité érotique révolutionnaire. En plus, un nom pas du tout à propos, mais qui titillera bien notre curiosité. Merci Margot, merci Benoît pour vos partages. On retrouve vos portraits encore une fois dans la description du podcast et sur les groupes Edeni. Et à bientôt et au mois prochain.
Merci beaucoup, Hélène.
Salut
Merci à
tout le
tous.
monde.
À toutes et à tous.
Au revoir.